France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, le jour se lève. Ce sera le dernier jour des prétendants. Attention, ça va être très sanglant. Ulysse, aidé de son fils Télémaque, va leur régler leur compte sans aucune pitié. La vengeance va se déchaîner, elle sera totale. Un vrai massacre. Depuis 3 années, des jeunes aristocrates, habitants d'Ithaque et des îles alentours, venaient chaque jour banqueter dans le palais d'Ulysse. Ils dévoraient ses richesses en troupeaux en vain. Ils prétendaient tous épouser la reine Pénélope. Ils n'attendaient qu'une chose, qu'elle se déclare veuve et qu'elle choisisse un nouveau mari. Ulysse, en effet, avait disparu depuis 10 ans, depuis qu'il avait fait tomber la ville de Troie, après une très longue guerre. Depuis, on était sans aucune nouvelle de lui.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Périclée. Tout à l'heure, le soleil, avant de disparaître dans la mer, a été voilé par les nuages. J'ai eu l'impression qu'une grande ombre noire qui avait la forme d'une voile allait le masquer pour l'effacer. Qu'est-ce que ça veut dire, Euryclée ?
Voilà des années que tu cherches à lire inutilement dans le vol des oiseaux. Leur tour d'Ulysse, mais ne te tourmente donc pas toujours, Pénélope.
Et comment pourrais-je faire autrement ? Quelquefois, j'ai peur de succomber. Tu entends ? Cette meute hurlante, ce sont mes prétendants. Il y a des années que chaque soir, ils envahissent le palais. C'est une meute de chiens affamés. Et tous les soirs, ils sont là, ils boivent, hurlent, toute la nuit.
Pénélope est désespérée, torturée. Elle pleure tous les jours, toutes les nuits, l'absence d'Ulysse. Mais elle dit qu'elle ne pourra pas échapper plus longtemps à la demande des prétendants, alors même qu'elle les déteste. Il faut que ces malotrus cessent de dévorer le patrimoine familial, patrimoine royal, qui doit revenir à son fils Télémaque. Pénélope doit donc, dit-elle, se résoudre à quitter sa maison et à suivre chez lui l'un de ses prétendants. Le jour qui se lève devrait être celui qui la verra proclamer sa décision. Quel jeune prince grec va-t-elle épouser ? Pendant la nuit qui précède ce jour odieux, Pénélope appelle sur elle la mort jusqu'au matin. Elle n'a dormi qu'une toute petite partie de la nuit et a fait un rêve cruel, trompeur.
Le malheur est tolérable encore lorsque l'on peut pleurer le jour de tout son cœur lourd d'affliction et dès la nuit céder au sommeil qui efface le bon et le mauvais dès qu'il nous couvre les paupières. Mais moi, le ciel m'accable encore de mauvais rêves. Cette nuit, quelqu'un dormait près de moi, semblable à lui, tel qu'il était quand il partit avec l'armée. Mon cœur en jubilait, croyant que ce fut déjà vrai et non rêvé.
Ce rêve est trompeur, mais pas si faux que ça. Un homme dormait dans le palais, dans le vestibule, couché dans des peaux de bête, un mendiant avec qui Pénélope a longtemps parlé sans le reconnaître. C'est Ulysse. Il n'a pas du tout l'apparence du beau guerrier qui, il y a 20 ans, s'est embarqué pour aller faire la guerre à Troie. Cet homme est vieux, habillé de haillons. Il est costaud, il a une certaine prestance, mais il est délabré, miséreux. Ulysse est revenu, clandestinement. La déesse Athéna lui a donné cette apparence pour que les jeunes prétendants ne le reconnaissent pas. Sinon, il n'aurait pas hésité à le tuer. Seul le fils d'Ulysse et de Pénélope, Télémaque, savait que cet homme était son père. Le vieux chien d'Ulysse, Argos, l'a reconnu tout de suite. Il en est mort d'émotion. Pénélope s'est intéressée à ce mendiant, sans deviner que c'était Ulysse. Une complicité forte et mystérieuse s'est établie avec lui. La venue de cet Ulysse, inconnu, transformé, était accompagnée de signes bizarres, une prophétie, un éternuement fracassant de son fils, un rêve. Et Pénélope se disait que quelque chose de nouveau allait se produire. Cet événement nouveau était, selon elle, d'une manière ou d'une autre, lié à l'arrivée de cet inconnu, à qui elle a tout de suite donné sa confiance. Pénélope est déchirée, c'est la crise. Elle sait que le jour qui va se lever sera décisif. D'un côté, elle est rassurée par les signes qu'elle a perçus, par l'arrivée inattendue de cet homme. Cette arrivée donne de l'espoir. Elle lui annonce une délivrance prochaine. Mais de l'autre, elle ne peut plus attendre face à la pression des prétendants. L'ordre des choses qu'elle connaissait doit basculer. Paradoxalement, le moment est d'autant plus tendu, cruel, que quelque chose comme un espoir est là. L'aube survient. Ulysse entend sa femme qui pleure. Il demande à Zeus de lui envoyer un signe favorable pour cette journée qui sera décisive. Zeus entend la prière d'Ulysse. Il fait gronder le tonnerre alors que le ciel était parfaitement clair. Ulysse est en joie. Une servante travaillait à moudre du grain pour le repas des prétendants, de l'orge et du froment, que Homère appelle la moelle des hommes. Elle entend le tonnerre, s'en étonne et comprend que c'est un signe du dieu. Elle adresse une prière à Zeus.
Elle arrêta sa meule et dit « Bon signe pour le maître ».
Zeus, père, toi qui règnes sur les hommes et les dieux, tu as tonné avec force dans le ciel constellé, bien qu'il soit découvert. C'est un présage pour quelqu'un. Exauce donc aussi le souhait d'une pauvre femme. Puissent les prétendants pour la toute dernière fois aujourd'hui prendre leur festin dans ce palais. Eux qui me rompent les genoux d'une atroce fatigue à broyer leur farine, que ce soit leur dernier repas.
Elle dit et Ulysse fut heureux de ce souhait et du signe de Zeus. Il sut qu'il aurait sa vengeance.
Le festin, de fait, sera amer pour les prétendants. Le jour finit de se lever. D'après le calendrier, ce n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour de fête sacrée, en l'honneur du dieu Apollon. Ça tombe mal pour les prétendants. On dit que ce jour-là, on offre au dieu une hécatombe, à savoir un sacrifice de 100 bœufs. En fait, c'est une centaine de prétendants qui vont être mis à mort. Et Apollon est par excellence le dieu archer. Ses flèches atteignent toujours leur cible. Or, un arc sera l'instrument de mort employé par Ulysse pour les supprimer. Ça s'annonce mal pour eux, mais ils ne le savent pas. La fête doit commencer. On coupe du bois, on apporte des bêtes. Eumée le porcher, le merveilleux ami indéfectible d'Ulysse, que nous avons déjà rencontré, arrive avec 3 porcs, c'est-à-dire 2 de plus que pour les jours habituels. C'est fête, il faut honorer le dieu. Un méchant chevrier se moque du mendiant qui est encore là à faire le parasite. Le chevrier paiera cruellement cette insolence. Un bouvier a traversé la mer depuis l'île voisine de Céphalénie avec une génisse. Il plaint le mendiant pour son infortune et déclare sa tristesse infinie pour son maître, Ulysse. Ce bouvier s'appelle Philétios. Il jouera un grand rôle dans ce jour de colère. Les prétendants ne sont pas encore arrivés. Ils se sont réunis pour planifier l'assassinat de Télémaque. Les insignes divins interrompent leur discussion. Un aigle leur apparaît, venu de la gauche, le côté défavorable. Il tient une colombe. Amphinomos, le prétendant le plus sympathique, celui qui a le sens de la justice, leur dit d'arrêter leur projet meurtrier. Ils rejoignent le palais et commencent à manger. Télémaque veille à nourrir le mendiant, à savoir son père. Les disputes reprennent. Un prétendant accuse le mendiant de les gêner, de manger trop. Il lui jette à la figure un pied de bœuf. Ulysse l'évite. Télémaque s'énerve. On lui dit d'aller s'asseoir gentiment auprès de sa maman et de lui donner l'ordre de choisir l'un d'entre eux et donc de partir dans la maison d'un autre. C'est alors qu'un prodige survient, horrible. Athéna joue un très mauvais tour aux prétendants. Ils sont pris de folie, aliénés, sans aucun contrôle d'eux-mêmes. Ils éclatent de rire, sans aucune raison, sans même savoir qu'ils rient. Et en même temps, leurs yeux se mettent à pleurer.
Athéna souleva chez les prétendants un rire inextinguible et enténébra leurs esprits. Ils riaient, mais ce n'était pas leur mâchoire qui riait. Ils mangeaient des viandes souillées de sang. Leurs yeux se remplissaient de larmes. Ils ne pensaient plus qu'à gémir.
Les prétendants ne s'appartiennent plus. Leur bouche rit d'elle-même sans leur volonté. Ils mangent des viandes d'où coule le sang, comme le sang coulera de leur corps. Leurs yeux font le contraire de ce que font leurs bouches. Un devin, Théoclymène, inspiré par Apollon, assiste à la scène. Il l'analyse à haute voix et décèlent dans leur folie l'annonce d'un grand désastre, comme une journée de fin du monde. Quand la nature a tellement horreur de ce qui se passe qu'elle s'assombrit et que le soleil déserte le ciel. Théoclymène voit dans les prétendants des ombres courant vers les profondeurs de l'invisible.
Alors Théoclymène, égal au dieu, leur dit :
Ah, pauvres gens, quel malheur vous advient ! Je vois la nuit envelopper vos têtes, vos visages, vos genoux. Un gémissement brûle, vos joues sont couvertes de larmes, les belles travées, les murs sont ruisselants de sang. Le vestibule est rempli de fantômes, la cour en est remplie, qui cherchent les ténèbres de l'enfer. Et le soleil s'est absenté du ciel, un mauvais brouillard fond sur vous.
Les prétendants ne se sont rendus compte de rien. Ils se mettent alors à rire vraiment, volontairement cette fois, en se moquant du ton lugubre du devin, de son langage prophétique, grandiloquent, ampoulé, qui ne correspond à rien de ce qu'ils ont sous les yeux pendant ce jour de fête. Théoclymène s'en va. Il ne veut pas assister à la suite. Les rires moqueurs, joyeux, la fête continue, pas pour longtemps.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Yeah. Pierre Judée de la Combe raconte le dernier repas des prétendants à Ithaque.
C'est midi. Le jour va se mettre à décliner. Dans les batailles, c'est l'heure où tout change, l'heure de la décision, où il y aura un vainqueur et un vaincu. Les prétendants vont cesser de rire. Athéna indique à Pénélope qu'il est temps de mettre les prétendants à l'épreuve. De sa propre initiative, Pénélope a décidé que pour désigner le prétendant qu'elle épousera, puisque ce jour funeste doit être celui de ses noces, elle leur ferait subir une épreuve de tir à l'arc. Elle ne l'avait encore dit à personne, sauf lors de la nuit précédente, au mendiant qu'elle a accueilli, à savoir Ulysse lui-même. Un Ulysse encore méconnaissable. L'épreuve sera extrêmement difficile. Il s'agira de tendre le grand arc qui appartenait autrefois à Ulysse, un arc à double courbure, en corne, et de faire passer une flèche dans les ouvertures que présentent 12 haches que l'on aura plantées dans le sol en une ligne bien droite. On ne sait pas bien de quelle ouverture il s'agit dans ces 12 haches. Le vide par où passe le manche, ou un anneau métallique au bout de ce manche. Ulysse aimait cette épreuve, il l'a pratiquée. Elle va bien avec le dieu que l'on célèbre ce jour-là, Apollon, l'archer. Pénélope va chercher cet arc. Avec une clé de bronze à la poignée d'ivoire, elle ouvre les portes du trésor où Ulysse l'a laissé quand il est parti pour Troie. Les deux grandes portes bougent et mugissent comme des taureaux une fois que la clé les a libérées. Pénélope prend l'arc et les flèches qui font gémir. Rien qu'à toucher l'arc d'Ulysse, elle pleure à grands sanglots. Des servantes emportent les 12 haches de fer. Cet arc a toute une histoire. Ulysse l'a reçu en cadeau alors que, tout jeune encore, il avait été envoyé en mission par son père, Laërte, et par le conseil des anciens de l'île d'Ithaque sur le continent, à Lacédémone, autre nom de Sparte. Il s'agissait de récupérer un troupeau qui avait été volé aux gens d'Ithaque. Ulysse réussit à récupérer les bêtes. Là-bas, il rencontre un certain Iphitos, qui lui aussi voulait récupérer du bétail disparu. Les deux sympathisent, et Iphitos lui donne en cadeau cet arc qu'il tenait de son père, Eurytos, l'un des meilleurs archers des temps passés. Ulysse, en échange, lui offre une épée. Cet Iphitos a eu ensuite un sort terrible. Dans une crise de folie, Héraclès, qui avait participé au vol des bêtes de cet Iphitos, l'a massacré. Héraclès paiera ce meurtre en devenant pendant un an l'esclave d'une reine, Omphale, chez qui il passera l'année en étant habillé en femme. Pénélope entre dans la salle où mangeaient les prétendants. Elle tient l'arc. Des servantes portent les haches. Pénélope leur annonce son défi.
Écoutez, superbe prétendant, vous qui vous êtes jeté pour y boire et manger sans frein sur la demeure d'un homme absent depuis longtemps et qui ne pouvait pas donner d'autre prétexte à vos actions que le désir de m'épouser et de m'avoir pour femme, prenez courage, prétendant, car voici votre épreuve. Je vous présente le grand arc d'Ulysse, celui qui, le plus aisément dans ses mains, tendra l'arc et d'un seul trait traversera les 12 haches. J'accepte de le suivre et de quitter cette maison de ma jeunesse, cette belle maison pleine de biens dont je pense me souvenir toujours, jusque dans mes songes.
Télémaque dresse la rangée des 12 haches en creusant une longue tranchée dans le sol, bien droite. Il affirme qu'il va, lui, être le premier à tenter l'épreuve, alors que l'enjeu de ce tir est d'épouser sa mère. S'il gagne, dit-il, la mère ne quittera pas son fils, et ce fils se sera montré l'égal de son père. On est en pleine confusion des générations, dans une belle atmosphère oedipienne qui devrait enchanter beaucoup de psys. Télémaque, d'ailleurs, n'a pas fini de suivre les traces amoureuses de son père. Homère n'en parle pas, mais dans une tradition poétique ancienne qu'il devait connaître et qui ne l'intéresse visiblement pas, Télémaque va épouser la belle Circé après la mort de son père. Dans une autre légende, Télémaque passe pour avoir épousé la belle Nausicaa, cette princesse qui aurait pu être une épouse d'Ulysse. Télémaque essaye. Il prend de la hauteur en montant sur le seuil de la pièce, ce qui est une erreur, on le verra. Trois fois, il ébranle l'arc, mais il n'arrive pas à le tendre. Homer dit qu'une quatrième fois, peut-être, il aurait réussi. Mais son père lui fait signe de renoncer. Télémaque se lamente sur son échec. Il se voit comme un moins que rien.
Hélas, je ne serai jamais qu'un homme vil, sans force. Ou bien je suis trop jeune et ne puis compter sur mes mains pour me défendre si quelqu'un me cherchait noise.
Oui, jeune homme, il ne s'agit pas de toi dans cette épreuve, mais du sort de ta mère et de ton père qui doit éliminer tous ses rivaux. Télémaque dépose l'arc et invite les prétendants à se soumettre à l'épreuve. Le chef des prétendants, le méchant Antinoos, prend les choses en main. Il demande à ses collègues de se présenter en commençant par la gauche, par ceux qui sont le plus éloignés au fond de la salle, c'est-à-dire par les moins nobles. Se présente le jeune Léodès, qui est plutôt quelqu'un de sage. Les outrances des autres prétendants le révulsent. Il exerce la profession de devin. Son nom, Léodès, veut dire le lisse, le délicat. Ce n'est pas un nom adapté pour une épreuve de force. Il prend l'arc, essaye de le tendre et rate.
Car l'effort rompit avant ses faibles blanches mains.
Il faut que cet arc soit maudit des dieux.
Léodès prédit alors bien du malheur aux autres. Antinoos se fâche et demande à des esclaves d'apporter de la cire pour réchauffer l'arc, qui semble si dur en le graissant.
À mon tour, que peut-il avoir? Il est comme les autres.
Tous essayent, tous ratent.
Apollon est offensé. Il a retiré toute la force de nos muscles.
Comment Apollon t'enlèverait-il ce qu'il ne t'a jamais donné? Donne-moi cet arc.
Il n'en reste que deux, Eurymaque.
Prends les flèches.
Et Antinoos, les deux prétendants les plus nobles et les plus prétentieux. L'étau se resserre. À ce moment précis, Ulysse, toujours en mendiant, va trouver Eumée, le porcher loyal, et son ami Philétios, le bouvier. Ulysse leur demande quel camp ils choisiraient, si par hasard, dit-il, Ulysse revenait et luttait contre les prétendants. Le porcher et le bouvier répondent sans hésiter qu'ils seraient du côté de leur maître. Ulysse décide alors de se faire reconnaître par eux. Il leur montre sa cicatrice, preuve indubitable de son identité. De grands pleurs naissent de ses retrouvailles. Puis il faut cesser de pleurer. Ulysse donne des consignes très strictes. Eumée devra lui apporter l'arc, pour que lui, le mendiant, participe aussi à l'épreuve. Il devra dire aux servantes de verrouiller les portes de la salle. Le bouvier devra fermer avec une corde les portes de la cour. Personne ne pourra sortir. C'est au tour d'Eurymaque de tendre l'arc d'Ulysse et de tirer s'il le peut. Inquiet, il chauffe l'arc auprès du feu. Il le tâte longuement, puis se lève, va sur le seuil et essaye de tendre l'arc. Comme les autres, il n'y arrive pas. Il éclate de dépit.
Alors, en soupirant, il prononça ces mots.
Misère, quel ennui pour moi et pour les autres. Ce n'est pas tant les noces que je pleure, encore que triste. Il y a beaucoup d'autres Achéennes ici même, dans Ithaque, baignée par l'eau, ou dans les autres villes. Mais c'est que nous soyons si éloignés d'avoir la force d'Ulysse égale au dieu, dès lors que nous ne pouvons pas tendre son arc, la honte restera toujours en nous.
Antinoos, le dernier sur la liste, essaye de le rassurer. Ce n'est pas un bon jour pour tirer à l'arc. Le jour est dédié à Apollon. C'est un jour divin, un jour pur, et non un jour pour que des mortels s'affrontent. Antinoos propose de se remettre à manger et à boire, et d'attendre le lendemain. Oui, mais c'est un jour de fête, où l'on célèbre l'archer par excellence, le dieu Apollon. On ne peut pas se débiner. Ulysse, toujours sous l'apparence d'un mendiant, demande à essayer l'arc.
Si la reine me le permet, j'essaierai aussi de tendre cet arc.
Cela rend furieux Antinoos. Comment un mendiant pourrait-il penser qu'il a le droit de se mesurer avec des nobles? Il faut qu'il soit ivre. Pénélope prend la défense du mendiant, un invité. Il est impensable, dit-elle, que s'il gagne l'épreuve, ce mendiant, aussi costaud soit-il de corps et d'esprit sous ses vêtements misérables, la prenne pour épouse. C'est juste pour voir.
Si tu le désires, étranger, tu peux tenter cette épreuve.
Télémaque réagit en bon fils macho. Il dit à sa mère de ne pas se mêler de tout cela. Il renvoie Pénélope dans sa chambre et à ses travaux féminins, disant que l'autorité n'appartient qu'à lui et que le tir à l'arc est une affaire d'homme.
Mère, de tous les Achéens. C'est moi qui ai le pouvoir de donner ou de refuser cet arc à qui me plaît. Et aucun des seigneurs qui règnent sur les rocs d'Ithaque, ni sur les îles du côté de l'Élide aux chevaux, aucun d'entre eux ne pourra me forcer. Voudrais-je même offrir cet arc à l'étranger pour qu'il l'emporte. Remonte donc chez toi, retourne à tes travaux. Toile et quenouille. Et donne l'ordre à tes suivantes de se mettre à l'ouvrage. Le jeu de l'arc est l'affaire des hommes, et d'abord mon affaire, car la force, ici, m'appartient.
Stupéfaite, la reine regagna sa chambre.
C'est quand même gonflé. C'est Pénélope qui a eu l'idée du concours de tir à l'arc. C'est elle, personnellement, qui a apporté l'arme. Et pour Télémaque et pour Ulysse, la situation a changé. Il ne s'agit plus d'un concours pour obtenir la main de Pénélope, mais de guerre sanglante. Pénélope, pendant toute cette guerre, restera chez elle, prise par le sommeil que la déesse Athéna va verser sur ses paupières. Elle ne verra pas Ulysse et son fils à l'œuvre. Pendant toute l'opération, elle ne sera au courant de rien.
Eva Cantalera, juriste.
La vengeance n'est pas quelque chose de déréglé. Dans les poèmes homériques, on voit qu'il y a des règles très précises qui règlent la vengeance et que la vengeance est une façon de maintenir un ordre social. Parce que dans une société où il n'y a pas une liste des crimes, il n'y a pas encore, disons, un droit dans le sens moderne du terme, alors la règle sociale est on ne peut pas tolérer une offense à son honneur. Bien sûr, l'offense à l'honneur est proportionnée à la condition sociale de celui qui reçoit l'offense et de celui qui l'afflige. La vengeance est un devoir social. Parce que si on ne se venge pas, on a perdu l'honneur, la timée. Et si on a perdu la timée, on a perdu son statut social. Mais il y a déjà des règles. Parce qu'une vengeance déréglée, ça serait la guerre de tout le monde contre tout le monde.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Pierre Judet de Lacombe raconte l'épreuve du tir à l'arc que Pénélope impose à ses prétendants.
La guerre commence. Comme prévu, Télémaque demande au porcher Eumée de porter l'arc à Ulysse. Le porcher hésite et finalement il y va. Ulysse, le mendiant, prend l'arc, le tourne dans tous les sens, vérifie que les vers ne l'ont pas abîmé. Puis il essaye la corde, il la tire et elle rend un son magnifique.
L'ingénieux Ulysse, quand il eut soupesé et examiné le grand arc, comme quand un homme qui connaît la cithare et le chant avec aisance tend une corde sur la clé neuve, ayant fixé à chaque bout le boyau de mouton tordu, ainsi Ulysse, sans la moindre peine, tendit l'arc. De la main droite, il prit la corde, l'essaya, elle rendit un beau son, pareil au cri de l'hirondelle. Le coup fut rude pour les prétendants et leur couleur à tous changea. Zeus tonna fort, Ce fut un signe clair.
Ulysse prend une flèche, arme son arc et tire, sans même se lever. Il reste assis, pas par flemme ou pour faire le bravage, mais parce que ses grands arcs à double courbure se tiraient en position basse, un genou au sol. Ce que les autres, Télémaque y compris, ne savaient pas. La flèche part et traverse sans encombre les 12 haches. C'est le grand moment. Ulysse se débarrasse de ses haillons de mendiant, saute sur le seuil de la grande salle pour avoir dans son champ de vision tous les prétendants et commence à tirer sur eux. La première flèche atteint Antinoos, qui levait une belle coupe d'or dans l'intention de boire. Il est touché au cou. Ça ne sera pas joli à voir.
Qui pouvait penser que parmi ses convives, seul devant tant de gens, un homme, même vigoureux, ferait venir sur Antinoos la mort mauvaise au noir génie. Ulysse tira et le frappa de sa flèche à la gorge. La pointe traversa de part en part la tendre nuque. Il bascula. La coupe lui tomba des mains, frappée d'un trait. Un flot épais jaillit par ses narines de sang humain. D'un mouvement brusque du pied, il renversa la table. Les mets se répandirent par terre. Le pain, les viandes rôties furent souillées. Les prétendants tempêtèrent dans la demeure en voyant tomber l'homme. Ils se levèrent des fauteuils, courant par la demeure.
Les prétendants cherchent des armes pour se défendre, mais elles ont été enlevées la veille au soir par Télémaque et Ulysse. Ils n'ont pas encore compris. Ils croient qu'un gueux leur tire dessus. Ulysse révèle alors enfin qui il est. Il leur annonce qu'il va les tuer tous. Eurymaque essaye de négocier. Il est prêt à dédommager Ulysse de tout ce que lui ont pris les prétendants pendant ces dernières années. Et en bon lâcheur, il désigne un seul coupable, son copain Antinoos, qu'Ulysse vient de descendre. Antinoos, selon Eurymaque, serait une vraie brute qui n'a eu que ce qu'il méritait. Il se fichait complètement de Pénélope et n'avait qu'un but, régner sur Ithaque. Ulysse l'écoute et lui répond qu'il ne fait pas de différence entre eux et il les provoque tous au combat face à face. On se croirait revenu dans les combats de l'Iliade. Eurymaque sort son épée qu'il avait toujours sur lui et se rue sur Ulysse. Il reçoit une flèche dans le foie. Il s'effondre, bousculant de la vaisselle dans sa chute. Amphinomos, l'homme juste, le plus sympathique des prétendants, se précipite à son tour contre Ulysse pour le chasser du seuil, nous dit Homère. Ulysse ne fait rien contre lui. Télémaque l'arrête et le tue d'un coup de lance dans le dos. Ce n'est pas très glorieux. Tant qu'il a des flèches, Ulysse abat les prétendants, un à un. Puis, Télémaque lui apporte des armes de combat frontal, un casque à l'aigrette effrayante, un bouclier à 4 peaux de bovin, 2 lances. Un esclave, le chevrier qui était résolument contre Ulysse, court chercher des armes dans le trésor du palais, 12 armements, et les distribue au reste des prétendants. Le combat va de plus en plus ressembler à une bataille rangée. Lors d'un second voyage pour se fournir en armes, le chevrier est arrêté par Eumée, le porcher. Le traitement qu'on lui réserve n'est pas très sympathique. Il est accroché à une corde, les mains dans le dos, et pendu au plafond. Son véritable supplice viendra plus tard, à la fin. Athéna apparaît sous la forme d'un ami d'Ulysse, Mentor. Elle encourage son protégé, qui risque d'être bousculé par les prétendants. Puis elle disparaît. Ou plutôt, elle va se loger sur une poutre de la grande salle pour assister au spectacle, en prenant la forme d'une hirondelle. Les survivants se sont rassemblés et attaquent avec des tirs groupés de lances à plusieurs reprises. Mais Athéna les détourne chaque fois. Comme pour les combats sous les murs de Troie, nous avons de longs catalogues des prétendants frappés qui mordent la poussière. Reste, en dernier, le premier qui avait essayé de tendre l'arc, le doux et délicat Léodès le devin. Pour ses amis prétendants, il lisait les signes dans les entrailles des bêtes sacrifiées. Il supplie Ulysse de l'épargner. Il n'a jamais commis de crime. Il a toujours essayé de réfréner les autres, ce qui est vrai. Mais Ulysse lui rétorque que s'il a prophétisé pour les prétendants, il a dû souhaiter la mort d'Ulysse. Ça ne se pardonne pas. Ulysse lui tranche la gorge.
Comme il parlait encore, sa tête fut dans la poussière.
Arrive en suppliant un deuxième spécialiste de la parole. Non pas un prétendant, mais Phémios, le chanteur qui égayait le repas pendant l'absence d'Ulysse. Phémios, Ce nom veut dire l'homme de la parole. Phémios est à rapprocher du verbe phémi, je parle, j'affirme, comme on a en latin le mot fama, renommé. Il va jouer de la parole, son domaine. Phémios dépose sa lyre et court se blottir contre les genoux d'Ulysse. Il l'implore en parlant de son art. Il promet qu'il l'emploiera pour la gloire d'Ulysse.
En le suppliant, Phémios lui dit ces paroles ailées.
J'embrasse tes genoux. Entends-moi, aie pitié de moi. Toi-même en auras du regret plus tard, si tu condamnes le chanteur qui chantait pour les dieux et les hommes.
Suit un argument pour obtenir la clémence d'Ulysse qui est plutôt bizarre. Une description très étonnante du métier de poète. Beaucoup d'interprètes, dont moi, se sont arrachés pas mal de cheveux pour comprendre. Phémios dit qu'il a appris son métier par lui-même, qu'il ne dépend de personne. Il se dit autodidacte, en grec, autodidactos. Et dans la même phrase, sans aucune rupture, il dit que c'est une divinité qui lui a mis dans la poitrine la grande variété de poèmes qu'il peut chanter. Comment peut-on à la fois être son propre maître, autodidacte, et tout recevoir d'une divinité? Dans les deux cas, c'est censé être valorisant. Phémios dit qu'il ne dépend de personne, il est souverain, et le trésor de chant que contient sa poitrine vient directement des dieux et pas de lui. Autodidacte veut peut-être dire qu'il a su tout seul, sans l'enseignement d'aucun maître, d'aucune autorité, se mettre en rapport avec les divinités. Et ces divinités lui ont offert leurs poèmes. Entrer en contact, comme il faut, avec les muses, ce n'est pas facile. Il faut que les muses, ces déesses, soient d'accord et qu'elles considèrent tel mortel, plutôt que tel ou tel autre, comme digne d'être leur serviteur, c'est-à-dire leur substitut vis-à-vis des autres mortels, pour qu'ils chantent en leur nom et même à leur place. Cela demande une grande compétence, un apprentissage, que Phémios prétend avoir accompli tout seul. Phémios, le poète, veut dire qu'il est autonome, qu'il ne dépend de personne et certainement pas des prétendants pour qui il a tant de fois chanté. Phémios se dit donc libre pour Ulysse. Il le chantera comme on chante pour un dieu.
Je suis mon seul maître, et c'est un dieu qui a planté dans ma poitrine toute la variété de mes récits. Devant toi, je saurai chanter comme devant un dieu. Renonce à m'égorger.
Télémaque confirme qu'il faut épargner ce poète, il est innocent. Ulysse laisse donc Phémios en vie. Dieu merci, c'est grâce à lui que nous avons aujourd'hui l'Odyssée. À Ithaque, Phémios a commencé à mettre en poésie la saga d'Ulysse et ça s'est transmis jusqu'à nous. Dans une des légendes que l'Antiquité a composées pour raconter la vie d'Homère, l'homme qui a initié le jeune Homère à la technique du langage et qui est devenu son père adoptif, s'appelait Phémios. Un troisième spécialiste du langage, après le devin et le poète, accourt pour supplier Ulysse. Il s'était caché sous un fauteuil. C'est Médon, non pas un prétendant, mais un porte-parole officiel du palais. Ulysse l'épargne. Il a donc désormais à sa disposition un poète et un communicant, en plus de deux éleveurs pour ses troupeaux, un porcher et un bouvier. Son pouvoir, petit à petit, se met en place.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Oh,
Pierre Judée de la Combe évoque la vengeance cruelle et sanglante d'Ulysse.
Considérer le noyau hyper merveilleux des aventures d'Ulysse comme l'essentiel de l'Odyssée, c'est une erreur. L'Odyssée a un but, c'est même pas le massacre des prétendants, mais la restauration du pouvoir d'Ulysse.
Pierre Pellegrin, philosophe.
Le dernier combat d'Ulysse, qu'il oppose aux prétendants, n'appartient pas au cycle héroïque. C'est même pas un exploit. Évidemment, c'est une entreprise qui demande de la détermination, du courage. Et entre nous, ce massacre de gens désarmés qui sont dans un banquet, et puis avec son cortège de cruauté et de torture, ce massacre des prétendants avec tout, ça fait un peu minable par rapport au combat des héros de l'Iliade, quoi.
Ulysse déambule dans le palais pour voir s'il reste des prétendants qu'il aurait oublié de massacrer.
Ulysse allait, fouillant par la demeure, s'assurer que nul n'y fut caché pour fuir le génie de la mort. Non, il les vit bien tous dans le sang et la poussière, tombés nombreux, tels des poissons que les pêcheurs ont tirés des eaux grises jusqu'à un trou du rivage dans un filet de 1000 mailles. Tous alors, regrettant les vagues des mers, sont en tas dans le sable, et le soleil qui brille leur enlève à tous le souffle. Ainsi formaient un tas les cadavres des prétendants.
Maintenant, il faut nettoyer tout ça. Des servantes vont le faire. Il faudra ensuite, après le travail, châtier celles qui ont trahi, c'est-à-dire celles qui ont couché avec les prétendants. Ulysse veut pour cela donner des ordres à sa vieille nourrice, Euryclée. Il l'appelle, elle accourt, et trouve son Ulysse vainqueur triomphant au milieu des corps. Il est couvert de sang. C'est horrible à voir. Encore une fois, on ne se croirait pas dans l'Odyssée, mais dans un remake caricatural de l'Iliade, de ses scènes sanglantes.
Elle trouva Ulysse au milieu des héros tués, éclaboussé de souillures et de sang, comme un lion qui s'éloigne, ayant dévoré un bœuf au pâturage. Tout son poitrail, ses mâchoires de part et d'autre sont couvertes de sang et sa vision est effrayante. Ainsi, Ulysse avait les pieds, plus haut les mains, souillés. Alors, quand elle vit les corps et le sang infini, elle voulut pousser le hurlement sur cet exploit. Mais Ulysse, en dépit de son désir, la réfréna.
Le cri de la nourrice n'aurait pas été de désolation, mais de joie. Ulysse l'arrête, car, dit-il, se réjouir sur des cadavres, c'est impie, même si ces morts sont parfaitement méritées et voulues par les dieux. En fait, les prétendants, dit-il, se sont tués eux-mêmes, ou plutôt leur folie les a tués. Ce n'est pas Ulysse qui les a mis à mort. Les prétendants ont déclenché contre eux-mêmes la violence d'un destin approuvé par les dieux à partir du moment où ils se sont rendus coupables.
Exulte dans ton cœur. Contiens-toi, vieille, ne hurle pas. Il est impie de triompher sur des cadavres. Ceci, c'est le destin fixé par les dieux et leurs actes qui les vainquirent. Ils n'avaient aucun respect pour aucun homme de la terre, que ce fût un vilain ou un noble qui vint à eux. Et c'est à leur fureur qu'ils doivent leur infâme sort.
Bref, les prétendants, selon Ulysse, se sont châtiés eux-mêmes. Leur violence a engendré une seconde violence, un destin ignoble, comme leurs actes ont été ignobles. Ulysse n'ignore pas l'infamie qu'il leur a imposée en les massacrant sans pitié. Mais cette infamie n'est que justice, elle n'est que la répétition de ce que ces gens ont fait. Ulysse ajoute que l'infamie des prétendants s'adressait à l'humanité entière, dans toutes ses classes sociales, aussi bien les nobles que les pauvres. Lui-même, transformé par Athéna en mendiant, a connu les deux conditions. Il peut témoigner, les prétendants l'ont à plusieurs reprises insulté. C'est brutal et très profond. Le criminel ne se contente pas de détruire, d'humilier, de nier celui qui l'outrage ou même qu'il tue. Il ne se contente pas de détruire l'ordre établi, l'ordre normal. Il s'anéantit lui-même à partir du moment où, par son acte de violence, il supprime toute possibilité de vivre normalement. Il déclenche lui-même un destin contre lui-même. Il mutile sa propre vie en s'attaquant aux autres vies. La vie outragée se venge elle-même en se retournant contre l'outrageur. Les dieux ne provoquent pas ce destin. Ils ne font que l'approuver et s'assurer qu'il se réalise. ce sont les mortels qui sont responsables de leur perte, pas les dieux. Mais est-ce qu'on peut vivre avec cette idée de vengeance? La justice est, selon Ulysse, une stricte loi d'équivalence. La violence appelle une violence. Cette justice est universelle. Elle ne prend pas en compte la classe sociale du coupable ou de l'humilié. Mais comment arrêter cet enchaînement de violence? Si la justice doit permettre à une société de vivre, de se perpétuer, comment cette justice de la stricte répétition de la violence, de la vengeance, peut-elle être compatible avec une vie partagée et durable? Pour le moment, il n'y a pas de réponse. Homère laisse cela en suspens. Et ce n'est pas fini, la violence. Il faut maintenant s'intéresser au sort des servantes qui ont trahi. La nourrice d'Ulysse, Euryclée, lui révèle les noms des servantes qui ont couché avec les prétendants. Il y en a 12 sur 50 servantes pour tout le palais. Ulysse les fait venir. Elles devront aider les trois hommes, Télémaque, Eumée le porcher et Philétios le bouvier, à enlever les cadavres et à nettoyer la salle.
Ulysse dit ces mots ailés.
Emportez maintenant, aidés par les femmes, les morts. Ensuite, avec de l'eau et l'éponge poreuse, purifiez les beaux fauteuils, les belles tables.
Puis, il donne l'ordre à Télémaque, Eumée, au bouvier Philétios, de passer les servantes par l'épée, une fois que ce sera fini. Les servantes, en gémissant, accomplissent le travail. Elles portent les cadavres de leurs amants, en s'appuyant l'une sur l'autre, et les entassent dans la cour. Elles nettoient les tables et les fauteuils. Les trois hommes enlèvent à la pelle la boue de sang qui recouvre le sol de la grande salle. Puis vient le châtiment des servantes. Ce n'est pas facile à écouter et à raconter, tellement c'est cruel. Télémaque ne se résout pas à les tuer simplement par l'épée, comme l'avait demandé son père. Elles ne sont pas dignes, pense-t-il, d'une mort aussi pure. Il tend un cordage autour d'un pavillon de la cour et les pend. Homère lui-même semble impressionné.
Il fixa à l'une des hautes colonnes un câble de navire, en entoura le pavillon, le tendant assez haut pour que leurs pieds ne touchent terre. Comme quand des griffes de longues ailes ou des colombes se prennent aux panneaux dressés dans un buisson lorsqu'elles vont au nid, au dieu et le lit qu'elles trouvent. Ainsi, leurs têtes s'alignaient, un nœud coulant à chaque coup pour que leur mort fût très lamentable. Leurs pieds eurent un bref sursaut et ce fut tout.
Puis, il faut s'occuper du chevrier traître, qui est toujours accroché à son plafond. Il est détaché, traîné dans la cour. À l'épée, on lui coupe le nez, les oreilles, le sexe que l'on jette aux chiens, et on finit par l'amputer des mains et des pieds. On ne dit pas à quel moment de ce supplice il est mort. Le but de cette sauvagerie était rituel. Il s'agissait, en enlevant tout moyen de communication, d'action de la part du tué, d'empêcher qu'un proche ne déclenche une vendetta. On se protégeait, si l'on peut dire. Il ne reste plus qu'à purifier les lieux du massacre avec du feu et du soufre. Cette substance dont l'odeur rappelle celle de la foudre de Zeus, elle chasse le mal. Le palais est propre, pur, grâce au feu et au soufre. On peut faire venir les servantes qui n'ont connu aucune souillure, celles qui sont restées fidèles et pures. Elles n'auront aucun contact avec les morts, avec cette immense souillure que fut le massacre entrepris au nom de la justice. On bascule alors dans la tendresse, dans les épanchements.
La vieille Euryclée traversa les beaux appartements d'Ulysse pour prier les servantes de ne pas traîner. Elles sortirent de la salle, une torche à la main. Elles entouraient, elles embrassaient le Seigneur avec tendresse, lui baisaient la tête et les épaules et lui prenaient les mains. Un doux désir envahissait Ulysse de pleurs et de soupirs, car il les reconnaissait toutes.
Voilà, vengeance est faite. Est-ce que c'est fini pour autant? Est-ce qu'on peut être content après tant de sauvagerie? Et surtout, reste encore une épreuve, se faire reconnaître et admettre par Pénélope. Ça ne sera pas facile, Pénélope est tellement rusée. Elle peut l'être plus qu'Ulysse. Et les habitants d'Ithaque, les familles des prétendants massacrés, comment vont-ils réagir à cette vengeance sans pitié? Est-ce que la paix peut s'installer dans une île qui a connu de telles violences? Est-ce qu'une société est encore possible? Homère, visiblement, s'est posé toutes ces questions.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Le Chêne. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son a été assurée par Adèle Caglard et le mixage par Éric Boisset. Bonne journée sur France Inter.